Bienvenue dans ce premier module, dans la première vidéo de ce premier module, et l'objectif c'est de partager avec toi les briques de ce qu'est une stratégie persuasive, ce dont tu vas avoir besoin pour pouvoir construire sur le long terme ta compétence persuasive. Avant qu'on rentre dans le détail, je trouve que c'est important de te rappeler la différence entre persuader et convaincre. Convaincre, c'est le fait de changer l'opinion. C'est-à-dire que une personne avait une opinion sur un sujet, ou alors elle n'avait pas d'opinion sur le sujet, et toi tu vas lui apporter des arguments, et ces arguments vont lui permettre de faire évoluer son opinion. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre une personne qui change son opinion, du type ok, j'ai compris qu'il fallait que je fasse du sport tous les jours, et une personne qui effectivement passe à l'action. Et le travail qui vise à pousser la personne à passer à l'action, c'est ça qu'on appelle la persuasion. Donc c'est important de réaliser qu'on tape à deux endroits différents. Convaincre, c'est quelque chose qui se fait au niveau de la rationalité, donc c'est vraiment un travail d'esprit à esprit, c'est un travail sur le logos, c'est un travail qui vise à argumenter, apporter des preuves, des données, des statistiques, mais encore une fois, ce qui fait qu'une personne va passer à l'action, ce qui fait qu'une personne va agir, bah là on est plus dans le domaine de la motivation, on est plus dans quelque chose qui relève de l'émotion, même s'il y a d'autres dimensions dans les choses qui permettent effectivement de persuader. Dans cette formation, on va travailler surtout sur ta compétence persuasive. On va te permettre de pousser les gens à l'action pour qu'il y ait une différence entre une personne qui se dit tiens, c'est intéressant ce dont il me parle et une personne qui effectivement achète tes produits. La persuasion qu'on va viser, c'est principalement ça. Donc évidemment, hein, tu as la persuasion du type cliquer, s'abonner, s'inscrire, mais le type de persuasion qu'on va viser en priorité, c'est de t'apprendre à fendre. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important cette distinction entre convaincre et persuader? Parce que je pourrais te dire dans cette formation, on va simplement t'apprendre à persuader, mais apprendre à convaincre, c'est important, parce que si tu persuades sans convaincre, c'est de la manipulation. Si tu pousses quelqu'un à acheter parce que t'as joué seulement sur l'urgence, t'as joué seulement sur le fait, la peur de passer à côté, t'as joué seulement sur la peur, etc., que la personne achète et qu'ensuite elle est pas contente parce qu'elle n'a pas fait le chemin intellectuel pour se dire que ça devait être important et intéressant pour elle, eh bien c'est de la manipulation. Donc si tu convaincs sans persuader, bah, la personne passe pas à l'action et donc tu tires à blanc. Et si tu persuades sans convaincre, eh bien là ça relève de la manipulation. Et donc c'est pour ça on va également s'assurer que tu sois capable de convaincre et de persuader. Une fois qu'on a dit ça, le modèle dont on va repartir pour t'apprendre à persuader, mais aussi à convaincre, c'est le modèle d'Aristote. Et le modèle d'Aristote, c'est donc l'auteur du premier grand traité sur la rhétorique. Est-ce que nous dit Aristote, c'est que vu qu'on s'adresse à des êtres humains complets, on ne peut pas s'adresser qu'à l'intellect, donc il ne faut pas se focaliser que sur le logos, il faut également prendre en compte l'éthos, donc à savoir le caractère, les valeurs. Et c'est de ça plus particulièrement dont on va parler dans ce module, mais le fait que tu sois sympathique, le fait que tu aies l'air d'être expert dans ton domaine, le fait que tu sois attachant, le fait que tu sois une personne de confiance, et ben c'est quelque chose qui déclenche la décision d'achat et c'est quelque chose qui est central dans le processus de persuasion. Donc à côté du travail qui consiste à développer son logos, c'est important de travailler sur son éthos et outre l'éthos, il y a évidemment le pathos et le pathos, c'est le travail que tu fais sur les émotions et donc dans ce module, tu l'as compris, on va s'assurer que tu construises un éthos digne de confiance. On va également s'intéresser au pathos, on va s'assurer que tu sois capable de faire des contenus avec la bonne intensité émotionnelle et avec les émotions au bon endroit, les bonnes émotions au bon endroit pour s'assurer que les gens achètent, que les gens passent à l'action après t'avoir écouté. Et évidemment, on consacrera un petit peu de temps sur le logos pour s'assurer que tu aies des arguments solides, que tu saches ce qu'est un argument solide et que tu saches présenter des arguments solides. En tout cas, ici, on s'intéresse à l'éthos et donc on va se lancer là-dedans. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à comprendre là-dessus et ensuite, bah, on va se mettre au travail parce que l'objectif, évidemment, bah, c'est de créer du contenu qui construisent ton éthos, mais également qui signalent bah, que tu es une personne de confiance, une personne chez qui on peut acheter. Alors, pour te présenter en quoi consiste l'éthos, je voudrais d'abord t'expliquer pourquoi c'est tellement important. Ensuite, je voudrais te donner les trois dimensions de l'éthos selon Aristote. Tu vas voir que c'est à chaque fois les recherches contemporaines en psychologie, en marketing confirment les choses qu'on avait dans la philosophie antique. Et ensuite, je te montrerai quel type de contenu tu dois créer maintenant pour pouvoir avancer dans ce processus de persuasion, ce processus qui vise à t'afficher avec un ethos persuasif aux yeux du public. Alors, que nous disait Aristote à propos de l'ethos? Pourquoi Aristote nous expliquait que l'ethos, c'est la plus importante de toutes les preuves? Eh bien, parce que il pratiquait la rhétorique dans un contexte politique. C'est-à-dire que les personnes dont on parlait, c'était le politicien qui cherchait à convaincre le public qu'il fallait partir en guerre, qu'il fallait augmenter les impôts, qu'il fallait sanctionner tel ou tel adversaire politique, etc. Et donc, le point, c'est que la politique, c'est un jeu qui se joue dans un terrain incertain. On ne sait jamais exactement comment les choses vont tourner. Et donc, on peut faire le meilleur raisonnement du monde. À la fin, l'avenir est incertain. Et c'est donc raisonnable de s'attacher non pas à ce qu'une personne nous dit. Donc, une personne peut nous dire, regardez, je vais vous démontrer par A plus D que ma mesure est la meilleure des mesures. Mais ce qui est rationnel, c'est de tenir compte du caractère de la personne. Est-ce que cette personne a un caractère digne de confiance? Est-ce que si les choses tournent mal, cette personne va paniquer? Est-ce qu'une fois qu'on lui aura donné notre confiance, cette personne va se retourner contre nous? Est-ce qu'elle va essayer de nous arnaquer, etc.? Donc c'est très raisonnable de s'en tenir au caractère de la personne, parce que en fait les paroles s'envolent mais les actes restent. Donc c'est pour ça que ton ethos, c'est ton actif le plus important. C'est pas parce que tu vas mettre un costume ou parce que tu vas commencer à parler de telle ou telle manière ou faire tel ou tel langage corporel que tu vas construire un ethos digne de confiance. C'est un travail plus profond et c'est dans ce travail qu'on va s'engager dans cette vidéo. Mais donc pourquoi est-ce que l'ethos est si important? Eh bien parce que, encore une fois, on ne sait pas de quoi le monde sera fait demain, et donc les beaux parleurs, les personnes qui sont capables de démontrer des choses, c'est bien, mais est-ce que les personnes sont capables d'avoir un comportement exemplaire? Et si tu veux, ton meilleur actif, c'est de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis. Et donc ça suppose de connaître tes lignes rouges, ça suppose de connaître ta vision, ça suppose de connaître tes valeurs, et il faut que le public le sache également. Et la meilleure manière d'avoir un ethos persuasif et d'avoir un ethos qui tient la route sur le long terme, eh bien c'est de faire un petit travail pour poser tes valeurs, ta vision, tes lignes rouges sur le papier, et avant de prendre une décision, de s'assurer que tu es bien en accord avec ces lignes rouges. Et pareil pour ton contenu, hein, quand tu publies un contenu, il faut que tu t'assures également que tu es en accord avec tes valeurs et tes lignes rouges. Je voudrais, avant qu'on rentre dans le détail des différentes qualités sur lesquelles tu dois commencer à travailler pour développer ton ethos, dire un mot de pourquoi l'ethos est devenu encore plus important à l'heure de l'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut publier du contenu, si tu veux, on peut publier du texte, on peut publier de la logique, on peut publier des arguments en appuyant sur un bouton et inonder les réseaux de ça. Donc la première chose, c'est qu'on va de plus en plus être en concurrence avec du contenu qui est créé par des intelligences artificielles, et dans pas longtemps on va également être en concurrence avec des influenceurs artificiels. Vu qu'on peut faire de la vidéo, et ben ça va être facile de créer des influenceurs qui n'existent pas vraiment, de créer des influenceurs IA. Et si tu veux pouvoir te distinguer, il va falloir que les gens s'attachent pas seulement à ton discours et à tes arguments, il va falloir que tu aies une personnalité qui soit remarquable. Il va falloir que tu commences à déployer cette personnalité avant d'être en concurrence avec d'autres IA auxquelles les gens finiront par s'attacher. L'autre raison pour laquelle c'est très important dès maintenant de travailler sur ton ethos, c'est qu'on vit à une époque de surcharge de contenu. On est complètement bombardé de contenu short souvent, et donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont prises, non pas parce que les gens se posent, prennent le temps de peser le pour et le contre, mais il y a tellement de ressources disponibles qu'on essaie d'aller au plus rapide, on essaie de faire des économies quand on prend des décisions. Et donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à des choses qui sont périphériques, et l'apparence, la confiance qu'une personne t'inspire, bah ça va être fondamental dans ta décision de faire affaire avec lui ou pas. Une fois qu'on a dit ça, on va s'assurer que dans ce nouveau contexte où l'ethos est devenu peut-être encore plus important qu'à l'époque d'Aristote, on va t'assurer que tu te construises un bon ethos. Donc ça, c'est important, et c'est là que tu vas voir à quel point la pensée d'Aristote était pertinente et pourquoi beaucoup de choses qu'il a découvertes sont aujourd'hui confirmées par les recherches les plus récentes en sciences cognitives, en psychologie sociale, en psychologie expérimentale et même en neurosciences. Et on va voir ensemble la pertinence de son modèle. Si tu veux développer sur le long terme l'image, l'apparence, le caractère, la prestance, l'éthos d'une personne en qui les gens auront confiance. Et donc, si tu veux commencer à persuader par ton ethos, par la confiance que tu vas créer par ta personne, il faut que tu travailles sur trois qualités. La première de ces qualités, c'est ce qu'on appelle l'eunoia, en tout cas c'est ce que les Grecs appelaient l'eunoia, et ça on peut le traduire par bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Ça veut dire que tu veux le bien de ton public. Vouloir le bien de ton public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas là pour essayer de l'arnaquer, ça veut dire que t'es là pour essayer de le faire grandir. Et si tu veux, ça c'est des choses... Quand tu regardes la stratégie de contenu que j'ai sur ma chaîne, business, eh bien, je fais très attention à ça. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos qui sont là pour, simplement pour faire des réactions à l'actualité, mais ça a une importance hein, du point de vue de l'éthos parce que ça permet d'afficher des valeurs. Si tu veux, ce qui est important dans le côté polémique, dans le côté j'ai une idéologie, c'est que on ne peut pas faire confiance à une personne qui a mis avec tout le monde. Une personne qui s'affiche comme, voilà, moi je suis un petit peu au milieu de tout, vous voyez, je suis un peu un négociateur. Personne n'a envie de faire affaire avec quelqu'un comme ça, parce qu'une personne neutre, c'est une personne qui ne sautera pas, c'est une personne qui ne te défendra pas le jour où tu seras attaqué. Alors qu'une personne qui est capable de dire, bah voilà, moi je me bats pour ces gens-là, et je me bats contre ces gens-là, eh bien c'est une personne qui est plus digne de confiance, bizarrement, parce qu'il y a quelque chose de tribal qui se joue. Une personne qui prétend être amie avec tout le monde, en vérité, elle n'a de lien solide avec personne. Et donc il y a des fois des gens qui me disent « Oui, mais tu n'as pas eu peur quand tu as commencé à dire les termes de te braquer certaines personnes ?» Non, non, je vends beaucoup plus depuis que j'affirme mes opinions, depuis que j'expose mes positions, parce qu'on fait confiance aux personnes qui sont capables de diviser, parce qu'une personne qui est capable de diviser, une personne capable de se positionner, c'est une personne qui est capable de prendre position aux côtés des personnes qui sont dans son camp et qui est capable de défendre les personnes qui sont à ses côtés face à des personnes malveillantes qui pourraient vouloir les attaquer. Mais donc s'il y a une utilité aux contenus qui sont des contenus, des contenus de réaction, des contenus de positionnement, je m'assure également qu'il y ait dans ma programmation une vidéo sur deux à peu près, qui est une vidéo qui est 100% là pour apporter de la valeur. Ça veut dire que je vais publier tous les jours une vidéo qui vise à faire des vues au maximum en surfant sur le dernier sujet qui agite les foules. Et il y a une vidéo par jour que je vais publier en faisant une vraie recherche sur un mécanisme économique, sur un mécanisme de finance, sur une question qui touche les entrepreneurs et les investisseurs. Et mon objectif, ça va être d'apporter un maximum de valeur. Donc si tu veux commencer à travailler sur ta bienveillance, et ta bienveillance, ça ne veut pas dire « Coucou, regardez, je suis transparent, je suis pour la paix, je suis pour la tolérance, etc. » Ça, c'est pas de la bienveillance. Ça, c'est de l'affichage de vertu. La bienveillance, c'est que tu es capable de dire, quand tu publies un contenu, eh bien, la personne qui va regarder ce contenu, ça va l'aider concrètement pour telle ou telle raison. Et si t'es pas capable de faire une liste après une vidéo en disant la personne qui a regardé cette vidéo, elle va se rapprocher de son objectif pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison, eh bien, ça veut dire que tu fais perdre du temps à ton public et ça veut dire que tu n'es pas bienveillant. Donc réfléchis bien à ça la prochaine fois que tu publies un contenu. Demande-toi si tu es bienveillant, et tu es bienveillant si tu ne fais pas perdre du temps à ton public, et tu ne fais pas perdre de temps à ton public si tu lui apportes de la valeur. Et donc c'est pour ça que c'est très important de faire cet exercice. Cet exercice qui consiste à poser clairement sur le papier, voilà ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne. Avec ma chaîne, j'ai envie d'aider tel type de personne à se rapprocher de tel objectif, et à partir de là, chacun des contenus que je publie donne des outils concrets qui permettent aux gens de se rapprocher de cet objectif. Donc là, je te demande de mettre cette vidéo sur pause, et fais un travail brutalement honnête avec toi-même. Est-ce que le contenu que tu as publié jusqu'à présent, c'est du contenu qui est bienveillant à l'égard de ton public? Et la bienveillance, c'est est-ce que tu as une idée claire de dans quelle direction tu as envie de faire progresser ton public? Donc très important de clarifier ça, et à partir de maintenant, tous les contenus que tu publies, eh bien tu dois t'assurer que tu ne fais pas perdre trop de temps à ton public. Tu as le droit de temps en temps de faire un buzz, mais tu dois consacrer une grosse partie de ta stratégie de contenu à essayer de permettre à ton public de progresser et de se rapprocher de ses objectifs. Donc, première dimension pour avoir un ethos persuasif. Donc là, je suis pas en train de te donner des trucs et ficelles, hein, du type « appuie sur ce bouton, ça va marcher ». Ça, je vais te donner des choses qui relèvent de ça dans le dernier module. Dans le dernier module, on va voir des techniques avancées de persuasion basées sur les dernières recherches, et là, il y aura des choses que tu pourras tester et appliquer immédiatement, mais il faut qu'on commence par avoir un travail de fond. Sinon, ça ne tiendra pas. Tu ne pourras pas construire une vraie carrière sur le long terme. Deuxième dimension d'un ethos persuasif, c'est la compétence, en fait. C'est ce qu'on appelait avant la phronésis. Et la phronésis, c'est un mélange d'expérience et d'expertise. L'expertise, ça veut dire que tu as des connaissances dans ton domaine. Et l'expérience, ça veut dire que tu as pratiqué, tu continues à pratiquer. Et ça veut dire que tu es capable de, dans le concret, quand les choses ne se passent pas exactement comme dans la théorie, tu es capable de t'ajuster parce que tu en as vu d'autres. Et donc ça, cette dimension qu'on appelle la phronésis, cette dimension qui est la compétence, c'est souvent quelque chose, j'ai beaucoup de questions là-dessus, hein. Régulièrement, quand je lance des FAQ, les gens me disent, mais comment faire quand on n'a pas d'expertise? Comment faire si on a le syndrome de l'imposteur, etc. Et moi, je réponds toujours la même chose. C'est normal d'avoir le syndrome d'imposteur au début parce que vous êtes des imposteurs. Quand on se lance, on est un imposteur parce que on n'a pas encore atteint un niveau d'expertise. Et le mot d'expertise, c'est également quelque chose qui fait peur. Mais oui, ton objectif, c'est de développer une expertise. Parce que si tu ne développes pas une expertise, les gens ont intérêt à acheter chez des gens qui sont plus compétents qu'eux. Donc même si tu n'as pas une expertise aujourd'hui, ton objectif, c'est de développer une expertise, et on travaillera là-dessus avec un contenu qui est très important pour ça dans la suite de cette vidéo. Mais à ce stade, très important de réaliser que si tu ne veux pas faire perdre de temps à ton public, tu dois te former, tu dois avoir un objectif de devenir toujours meilleur, tu dois avoir un objectif de progresser, tu dois avoir un objectif de devenir toujours plus expert et de devenir toujours plus connaissant, sachant au sein de ton domaine. La meilleure manière de travailler là-dessus, c'est de te fixer des objectifs, en fait. C'est de commencer à dire et même de l'annoncer à ton public. Voilà, il y a cette dimension sur laquelle j'ai envie de progresser, dans ce petit domaine, j'ai envie de devenir bien meilleur. Enfin, tu vois, moi, au cours de ce mois, j'ai décidé de me reformer sur la persuasion, j'ai décidé de relire plein de choses sur la persuasion, j'ai décidé de faire un état de l'art sur la persuasion. Eh bien, régulièrement, il faut faire des choses comme ça. C'est comme ça qu'on est capable d'apporter de la valeur, c'est comme ça qu'on passe des caps. Et si tu as l'ambition d'être payé pour tes compétences, d'être payé pour les choses que tu partages avec ton public, tu dois régulièrement te dire ce mois-ci, au cours de cette année, je vais me focaliser là-dessus, et tu fais des plans pour pouvoir tous les jours un petit peu développer tes connaissances, développer tes compétences sur un sujet, passer à l'action, et c'est comme ça que tu développeras de la phronésis. Et les gens verront que tu développes cette phronésis, que tu développes cette compétence, que tu deviens donc une personne digne de confiance, c'est que tu vas publier des vidéos pour montrer voilà, j'ai appris telle chose, j'ai progressé sur tel domaine, là je me lance tel nouveau défi, etc. Tu vas documenter ton parcours de formation. Finalement, la dernière dimension d'un ethos digne de confiance, donc la première chose, c'est que tu as envie que ton public progresse, donc tu as envie de leur apporter de la valeur. Ça ne repose pas sur du vent parce que tu as de la compétence et tu as une volonté d'augmenter cette compétence. Et finalement, la dernière compétence, c'est la vertu, tu pourrais l'appeler la vertu, tu pourrais l'appeler l'intégrité. C'est ce qu'en grec on appelait arrêter. Et ça, c'est le fait que tu as des lignes rouges. Il y a certains partenariats que tu n'acceptes pas. Là, par exemple, tous les jours, j'ai des demande de partenariat dans ma boîte mail, tu sais, là j'avais une demande de partenariat pour une boîte crypto en Suisse ou je sais pas quoi, et ça me paraissait pas solide et j'ai pas envie que mon public perde de temps avec des choses comme ça, donc c'est non, je peux me faire un billet mais je dis non. L'autre chose, c'est que parfois tu peux refuser certains formats même s'ils pourraient faire des vues. C'est assez rare que je fasse une vidéo pour critiquer un youtubeur qui est dans la sauce, parce que je considère qu'un youtubeur, même s'il n'est pas dans mon bord politique, j'ai de la compassion pour lui, et puis j'ai pas envie de cracher sur des collègues. Il y a une espèce de déontologie qui fait que je vais plutôt traiter d'autres sujets. Je pourrais faire des vues dessus, mais je vais traiter d'autres sujets. Je refuse de faire simplement des vidéos qui sont des vidéos où je fais des coups de gueule. J'essaie également de faire plein de vidéos où je suis constructif, où je partage de la valeur, où je pousse les gens à progresser. J'aurais pu complètement lâcher ma seconde chaîne, ma chaîne de rhétorique pratique, mais je publie plusieurs vidéos par semaine dessus, même si elles ne font pas beaucoup de vues. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est utile, parce que je considère que c'est important. Donc il faut avoir des lignes rouges. Ces lignes rouges, il faut se les fixer en amont, parce que c'est trop facile, en fait, d'essayer de jouer avec la vérité, de jouer avec la réalité. Il y a un bon exemple de ça, tu sais, c'est Socrate, quand il a été condamné à mort. Socrate est condamné à mort parce qu'il a perdu son procès, on l'a accusé de corrompre la jeunesse et de blasphémer, etc. Donc il a été condamné à mort par les Athéniens. Mais les Athéniens n'avaient pas vraiment envie de le tuer, donc il y a des gens qui sont allés le voir dans sa cellule en lui disant « Bah écoute, si tu te sauves, on viendra pas te rechercher. Si tu te sauves maintenant et que tu vis en exil, on va pas te poursuivre. » Et là, bah effectivement, Socrate aurait pu dire « Oui, c'est vrai que j'ai toujours dit qu'il fallait vivre avec justice, mais le jour où la justice est injuste, eh bien, c'est juste de se sauver, etc. » Il a dit « Non, non, moi j'ai toujours dit qu'il fallait vivre en accord avec la justice, donc je vais pas aujourd'hui me renier, donc je reste fidèle à mes principes. » C'est important d'avoir des principes, c'est important de se tenir à ces principes et de convoquer ces principes avant de prendre une décision. Et l'intégrité, c'est également le fait que tu es capable de dire pour qui tu te bats et tu es également capable de dire contre qui tu te bats. Et bah, c'est ça qui font que, encore une fois, hein, les gens qui n'ont pas d'adversaire, bah, c'est des gens qui n'ont pas de vrais amis. Et donc, il faut également travailler sur cette compétence à l'intégrité en te demandant régulièrement bah, est-ce qu'il n'y a pas des lignes rouges que tu franchis trop régulièrement? Et même avant ça, quelles sont tes lignes rouges? Est-ce que tu es capable de poser sur le papier quelles sont tes lignes rouges et de temps en temps, tu communiques dessus pour que les gens voient que tu es une personne intègre? C'est comme ça que tu vas pouvoir construire un éthos digne de confiance. C'est en étant bienveillant, à savoir tu veux faire progresser ton public, c'est en étant compétent, à savoir tu te formes régulièrement. Ça veut pas dire que tu dois tout savoir, ça veut dire que tu as une volonté de devenir toujours meilleur et tu dois finalement être intègre. Il y a des fois où tu es capable de faire passer ce qui est juste avant ce qui est efficace, avant ce qui rapporte. Maintenant qu'on a défini ce que sont les trois qualités d'un éthos persuasif, que tu as une idée de ce que tu dois commencer à faire dès maintenant pour construire ces qualités sur le long terme, eh bien ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, c'est que je vais te montrer différents types de billets que tu dois commencer à créer. Et quand je dis billets, hein, ça peut être également des petits shorts que tu dois commencer à publier régulièrement pour t'assurer de construire ton éthos, mais également de communiquer à ton public. C'est là que ça devient vraiment une stratégie de persuasion, que tu as un éthos crédible. Allez, je te laisse passer à la vidéo suivante.